Maintenant, je te parlerai de la haine. C'est une arme empoisonnée, autant pour celui qui se tient derrière la cuirasse que pour celui qui en est menacé, et, curieusement, c'est toujours le même. C'est un camp de concentration, une chambre à torture où le censeur s'automutile inconsciemment, enfermé dans des mémoires projetées et non libérées. Il se trompe indéfiniment sur l'origine du piège. C'est qu'il porte une souffrance tenue secrète, enfouie et inconsciente de traumatismes d'enfance préhumaine, dont il se croit l'auteur, alors qu'il en est la victime. Finesse subtile des inventions de ton ego qui flatte la déchirure pour en prolonger la durée. Enterré sous des montagnes d'illusoires culpabilités, l'homme ne trouve d'autre défense que celle de se frapper lui, et pas un autre. Pour cette raison, délaissé de lui-même, il ne connaît plus ni l'espoir, ni le goût de vivre, ni la foi en son imminente faculté de créer. Terrassé, il entre dans le cycle ininterrompu des morts sans fin, jusqu'à ce qu'il redécouvre le décideur en lui. Si tu vois ton frère en train de vivre un cauchemar pareil, ne le bouscule surtout pas, ne le confronte pas, ne le compare pas, ne le juge pas, ne lui reproche rien. Aime-le, il est l'image de toi qui cherche, oui, plus qu'il n'en faut, aime-le. C'est que sans qu'il en soit encore certain, il s'apprête à la suppression du mensonge qui recouvre ton monde. De là, ressurgiront les prémices d'une naissance définitive dans le mien. Écoute, observe en silence, ausculte son âme souffrante. Avec moi, dépoussières-y le germe d'amour sacré qui, dans son éclatement, préside votre naissance à tous les deux. Porte cet embryon aux entrailles de l'Esprit divin. Là seulement, il sera à même de puiser la force de se redonner naissance à lui-même. Progressivement, il déposera l'ancien derrière lui. Le passé n'existant plus, tu entendras son rire d'enfant et son chant de liberté. Tu l'as vu, le vent de l'Esprit divin? Dis-moi d'où il vient et où il va. Saurais-tu insister sur sa forme, sa coloration ou l'origine de ses décisions? À mon avis, rien de tout cela n'est disponible en ta pensée. Si je te questionne sur ses effets, alors je présume que là, tu saurais me raconter une bien longue histoire.
Il y avait un vieil homme contrarié qui était allé questionner audacieusement cet invisible souffle. Après un long discours, calmement, le vent lui avait répondu « Ne vois-tu pas que ta colère est l'équivalent d'une tornade ? Ma seule réponse à ta question, c'est que l'esprit souffle où il doit, au moment juste, et pour des mobiles qui te semblent cachés alors qu'ils sont issus de ton appel semi-conscient. »
Quelquefois, une mobilité somnolente, une dérive machinale risque de provoquer ton retour vers un sommeil profond. Je considère cet état comme une alarme suppliante, alors je me manifeste à nouveau. Si ta vision diminue, si des bouchons calfeutrent tes oreilles, alors je te provoque par l'événement. Je suis interpellé par ton désir engourdi. Je ne fais jamais irruption chez toi sans qu'il en soit nécessaire. Observe attentivement, je ne brise que le périssable. Si ta maison sans fondation tombe en ruine, avant qu'elle ne t'écrase, ne vaut-il pas mieux la supprimer et la reconstruire diligemment? À résistance trop grande de ta part, résistance et demi est ma mesure. Je suis là tantôt pour élaguer, tantôt pour caresser. Je ne détruis que ce qui appelle l'extinction, alors que j'instruis dans la paix celui qui renouvelle volontiers son contrat d'allégeance. L'incorruptible est toujours sain et sauf. Le reste, il faut en défaire. Que sont des amas de pierres brisées, d'ossements pêle-mêle, de richesses ensevelies sous la poussière, autre qu'une exhortation pressante dissimulée derrière l'épreuve? L'homme ne reconnaît pas toujours les indices qui lui précisent le chemin à prendre. Il préfère se tourner vers les éléments de la nature et les accuser, sans comprendre ce qui doit être compris. Seul l'ego engendre les catastrophes. Seul l'Esprit divin peut les utiliser pour te faire comprendre la différence entre l'illusion et le réel. Toutes les voûtes les plus secrètes contiendraient-elles des milliards de milliards de richesses matérielles, de théories, d'idées, de concepts, de formules magiques? Cela ne mettrait jamais l'homme à l'abri de la mort, cet incontournable instrument au service de l'ego. Cependant, ce que l'ego ignore, car il est loin de tout savoir, c'est que les retours dans la matière ne sont que de brèves séquences dans le rêve. Le pauvre, il confond la douleur de celle qui enfante et de celui qui naît. Il ne sait pas que viendra le moment sans précédent où c'est toi qui te donneras naissance hors de cette fumisterie qu'est ton monde de rêve, un mystère que tu finiras par comprendre. Puisque tu cherches à résoudre l'énigme de l'épreuve, sache tout d'abord que tu ne t'éveilleras pas en dénombrant une à une les mouches qui passent. Vise plutôt à apprécier l'accélération que la souffrance peut parfois offrir à celui qui cherche. Elle te propose de t'extraire du champ de l'illusion et de laisser tomber derrière toi tout, sauf Dieu. Le rêveur qui hurle de douleur produit parfois un effort si intense qu'il provoque, même à son insu, une avancée remarquable vers l'éveil. L'invisible vent de mon appel ne cherche qu'à accélérer ta naissance. Ne sens-tu pas que faire une pause dans ma paix ne peut qu'alléger ton fardeau? À la longue, tu comprendras où se trouve le Graal, comment se brise le cycle infernal de la naissance et de la mort, et naître pour toujours au pays de l'autorité créatrice. Tu m'as donné tes clés, non? Alors, ne pose pas ta main sur tes yeux parce que je cherche à te révéler le soleil. Va, éveille-toi.
Un jour, un homme d'âge mûr, épuisé par l'épreuve, s'adressa au sage de la montagne en ces termes. Connaissant votre réputation, je me présente à vous afin que vous m'aidiez à mieux comprendre le sens du chemin qu'il me reste à parcourir. J'ai toujours cru qu'une puissance, tellement plus inspirée que la mienne, finirait par m'apporter une quiétude inébranlable. J'ai vécu des moments d'extase indescriptible et des moments d'enfer foudroyant. Je vous prie de m'aider à mettre de l'ordre en ma pensée. » Le maître ferma les yeux et posa la question suivante à son interlocuteur. « Vous seriez prêt à perdre la vue? Pour retrouver la paix et la certitude, je serais prêt à n'importe quoi. » « Alors, reprit le sage, dites-vous bien que vous êtes sur le point de comprendre le sens de la traversée qui vous exhorte. » Ce sont vos sens qui vous soumettent aux tromperies de l'ego. Si ce dernier soupçonne le moindrement que vous êtes en train d'obstruer son action, en brisant les chaînes qui vous retiennent prisonniers de son influence, il tentera d'entraver votre marche à tout prix. Le doute, en ce cas, est l'une de ses armes privilégiées. Il se peut que, soumis à des sensations de vertige, vous viviez une forme de perte d'équilibre, doublé par la peur de vous être construit un château de paille. Vous décrivez avec tant de justesse l'émotion qui me traverse actuellement. Enseignez-moi comment échapper à ce doute qui m'accule au vertige. J'ai côtoyé tant de mensonges que la vérité me semble impossible. Où est la marge entre la prudence et la méfiance, entre la naïveté et la confiance, entre la foi et la certitude? Ce qu'il vous faut comprendre, mon frère, c'est que souvent, cette forme de doute, dont l'assise ne repose pas sur un rejet a priori, mais sur une recherche honnête de vérité, précède de très près la béatitude et l'ivresse de la manifestation de la vérité. À celui qui cherche loyalement, qui cesse d'être l'esclave de la pensée des autres, qui consent au détachement des prétendues clartés de votre monde, la nuit et le silence deviennent un privilège. Libéré d'attente et d'attache, désencombré des sens et de toutes sortes de faux rôles et de faux espoirs, totalement à découvert devant l'appel de la vie, il se retrouve complètement dénudé. Après quoi, la traversée s'opère et le vertige se transforme en ravissement. Souvenez-vous que la nuit est favorable à l'échappée du prisonnier. Elle lui permet de distancer le peloton et de s'évader définitivement de la brisure. Ce n'est pas dans les faux-semblants de ce monde que se loge la lumière. C'est en l'esprit que le passage conduit à la demeure de cet amour, délivré de la forme, de l'espace et du temps. L'essence purifiée, vous rejoindrez les prophètes qui vous ont précédés et qui vous attendent, car ce n'est pas seul, mais tous ensemble que vos yeux boiront la lumière au fond du puits. Le mouvement de votre mutation exhortera vos frères, comme vous êtes maintenant vous-même incités par les maîtres qui vous devancent. Soudain, le sage s'imposa le silence. À cette heure, il découvrit devant lui un homme debout, en tunique d'espoir, le cœur tendu vers des milliers d'autres hommes en quête de délivrance. Et à nouveau, dit la légende, le passage fut créé.
Chez ceux qui t'ont précédé, tu as souvent entendu parler de la nuit des sens ou de l'esprit, de l'étroite traversée du tunnel, de la transition contraignante et rigoureuse. Ne crains pas, la mort des sens t'offre en échange un couronnement et une libération sans appel. Tu dois maintenant réaliser plus à fond à quel point ton monde est un dortoir. Certains de ses habitants sont des nouveaux venus, d'autres ronflent sous l'effet de somnifères puissants et un nombre grandissant d'entre eux se rapproche suffisamment de l'aurore pour humer déjà l'odeur du soleil. Chaque jour, tu fréquentes toutes ces parties de toi-même sans pour autant réaliser l'ampleur de cette profonde amnésie. Imagine que tu décides d'organiser un concours sur la compréhension des richesses forestières. Tu te documentes sérieusement. Pour rendre plus attrayant le stand que tu prévois ouvrir, tu lances une invitation publique aux intéressés. Le jour convenu, 5 personnes répondent à ton appel. Un homme aveugle, venu pour l'odeur des arbres. Un homme d'affaires, à la recherche d'opportunités et de spéculation. Un artiste peintre, simplement là pour le plaisir de participer. Une personne fragile de santé, profitant de l'occasion pour étaler sa faiblesse, suppliant qu'on prie à ses intentions et, finalement, un poète silencieux. Chacun, à ta demande, dessine un arbre à son choix et décrit brièvement sa motivation. Au moment où tu évalues les résultats, es-tu satisfaite? Déçue? Ces personnes sont-elles conformes à tes attentes? Comment apprécies-tu les résultats obtenus? Que deviennent tes espoirs de réalisation? Es-tu dégagée, encouragée, découragée? Veux-tu poursuivre ton projet? Pourtant, tout cela est sans importance. Ce qui importe, c'est de te voir. Surtout, retiens ceci. Indépendamment des personnes qui auront répondu à ta convocation, et tu peux en ajouter quelques milliers d'autres, tous les arbres posés devant toi seront sans racines, sans sève et sans vie. C'est une image parfaite de ton monde, une pure illusion à laquelle tu es attaché. Pour t'en sortir, il te reste un chemin. Il appartient au monde de l'esprit divin. Pour cela, j'insiste afin que tu laisses derrière toi tout ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu crois savoir. Est-ce si terrifiant de quitter ton rêve? Ne tremble pas. Tu marches vers l'amour qui est connaissance créatrice, sans origine et sans fin. Tu me demandes ce qu'est l'amour. Connais-tu l'ampleur de ta question? À part le « je » avec un « j » minuscule, le terme « amour » est l'un des mots les plus utilisés dans ton monde. Tu aimes ou tu n'aimes pas la température, ce que tu manges, ce que tu lis dans le journal ou entends à la télévision. les vêtements ou coiffures à la mode, tel type de parfum, de maquillage ou de bijoux, les voyages, les soirées dansantes, ton jardin, ta voiture, ton chat et enfin tout ce qui est soumis à tes sens. Tous ces choix, pour ou contre, n'ont rien à voir avec l'amour avec un A majuscule. Tu as tout simplement exprimé des préférences au monde de la dualité où règne la comparaison. Allons nous promener maintenant dans la sphère des relations humaines, voir si nous y trouverons réponse à ta question. Tes parents, tes frères et sœurs, ton conjoint, tes enfants, ton patron, tes collègues de travail, ton médecin, ton dentiste, l'artiste sur la scène, le président de ton pays ou d'autres nations, les frères de ta race ou d'autres races, le boulanger, le laitier, le voleur, l'assassin, le joaillier, le commentateur sportif et la liste est à compléter. Dis-moi maintenant, saurais-tu les placer par ordre d'importance? Si oui, tu es dans la préférence, l'aversion ou l'indifférence? Pas encore dans l'amour véritable. Si tu procèdes à l'exercice de les placer par ordre de préférence, ajoute en parallèle les raisons qui motivent ton choix. Nomme ensuite les émotions sous-entendues et masquées au verso de ta sélection. Finalement, prends acte du scénario. Tes sentiments sont-ils libres d'attente et d'attache? Certes pas totalement, puisque tu es encore en ton monde. Si tu hais la personne, si tu éprouves du ressentiment à son égard, si tu affirmes que tu ne pourras jamais lui pardonner, si tu crois qu'elle est un monstre criminel ou social, alors sache que cela te révèle une part de toi que tu ne peux pas regarder en face parce que tu es trop souffrante. Cette insupportable douleur, tu l'as camouflée, dissimulée, soustraite à ton regard parce qu'elle est trop pénible et que tu te sentirais coupable de l'exposer au grand jour. L'erreur de l'autre que tu projettes devant toi est là pour favoriser la rectification de ta perception. Ce que tu ignores encore, c'est que toutes erreurs ne résultent pas du mal qui est en l'homme, comme le soutient l'ego, mais qu'elles découlent en filigrane d'un incontournable besoin d'amour. Quand tu auras compris cet essentiel, tu ne masqueras plus aucune de tes erreurs, tu me les confieras aussitôt. Ce n'est qu'avec ton assentiment et en tout respect de ton rythme que je serai en mesure de démanteler ce réseau de ruses sournoises inventées de toutes pièces par le monstre du mensonge. Cette mise à jour constante de tes émotions et de tes jugements laissera émerger divers degrés de compréhension et d'avancement et accélérera le processus d'ascension. Tu peux aimer une personne pour la qualité de son être, pour les partages enrichissants que tu expérimentes avec elle, pour le respect réciproque qu'il vous est donné de vivre. Cela ne la rend pas meilleure ou pire qu'une autre. Elle est un reflet de toi tout autant que celui qui t'agresse et que tu repousses. Tout ce qui te propose une prise de position te présente un incontournable reflet de toi. Le rêve est façonné de ces oppositions qu'avec mon aide, tu apprends à démanteler. Non seulement tu saisiras que de cette libération personnelle émergeront la paix et la joie, mais tu comprendras que le mal n'existe que dans le rêve. Alors, tu t'éveilleras au véritable amour.
Ils étaient trois, deux hommes d'âge moyen et un troisième plus âgé. Ils avaient été mis au courant d'une opportunité invraisemblable. Un véhicule rendu disponible pourrait les conduire à proximité d'une montagne surnommée la montagne de la libération. Il était dit de cette zone très élevée que celui qui la franchissait n'en revenait pour rien au monde, affranchi définitivement du poids de la souffrance et de la mort. D'une décision unanime, les trois hommes conclurent que le projet représentait des avantages certains et que cela valait l'aventure, et prirent action. Celui qui les conduisit leur adressa la parole en ces termes. Cette montagne possède plusieurs versants. Des voies plus accentuées, d'autres plus longues et en apparence plus faciles, certaines comportent des détours plus pénibles. Je vous remets à chacun une carte topographique. Elle vous permettra d'établir votre choix de parcours. Ma fonction était de vous conduire ici, la vôtre est de décider. » Et le conducteur se retira sans plus. Nos trois courageux se consultèrent. Les pistes et sentiers, tous si différents, ne rendaient pas le choix facile et l'unanimité encore moins. Un des plus jeunes dit qu'il ne savait pas s'il avait dans ses bagages tout le nécessaire, alors que son compagnon invoqua le besoin de sommeil pour remettre à plus tard l'aventure. « Je suis plus âgé, » dit le dernier. « J'ai certes le pas plus lent et je présume qu'il vous sera facile de me dépasser. Mon choix est fait et je vais me mettre en route sur le champ. » Ils se séparèrent en bons termes et donnèrent chacun suite à leur démarche. La légende dit que le vieil homme ne revint jamais et que les deux autres s'attardèrent si longtemps qu'ils finirent presque par en oublier leur objectif.
Quand tu entends cette légende, quelles sont tes premières réactions? Prends le temps de te les nommer en toute sincérité avant même de poursuivre ce que j'ai à te dire. Es-tu neutre, indifférente, en appétit d'avancer? Observe pour voir si l'ombre d'un jugement a traversé ton esprit. Peux-tu établir une différence ou une ressemblance entre ces trois personnes? Dans de pareilles circonstances, à quel personnage te serais-tu identifié? Allons plus loin. L'objectif de cette question n'a qu'un seul but, celui de te faire comprendre la différence entre le jugement et l'impartialité. Que sais-tu des personnages de cette légende, autre que leur âge, leur désir commun de gravir la montagne et du moment où ils le feront? Fondamentalement, tu ne sais rien. Tu sais ce que la légende t'en dit, et c'est si peu. Dans la vie courante de ton monde, de minuscules échantillons te sont présentés sur l'attitude avantageuse et favorable ou mal à propos et choquante de l'un ou l'autre de tes frères. On dit que, il paraît que. Inconsciemment, tu viens d'avaler un préjugé. Quand tu ingurgites ainsi des milliers de jugements, tu te rives au sol et tu retiens ton frère avec toi. Si, par contre, tu prends de la distance, que tu reviens à la compréhension de la projection versus l'unité, tu progresseras dans l'ascension d'une conscience plus vive. Comme les trois personnages de cette légende, qui ne sont que des parts de toi-même, vous êtes tous interpellés par une singulière aspiration. Cela avant même votre naissance en cette vie. Si votre expérience individuelle semble différer, c'est uniquement qu'un regard de rêve offre toujours une vision erronée. Tu peux penser que quelqu'un d'extérieur à toi est responsable de ce qui t'arrive, que tu es un pauvre garnement, infortuné, mal aimé, une sorte de traîne-malheur qui n'a aucun pouvoir de s'en sortir, parce que c'est la faute des autres. Comprends deux choses ici. D'abord, que toute souffrance dans le rêve peuvent correspondre à un SOS que chacun se lance à lui-même pour s'extraire du rêve. Et ensuite, si tu gardes en mémoire qu'il n'y a qu'un seul rêveur, tu verras bien que tu parles de toi quand tu penses parler de l'autre. Tu ne juges jamais rien ni personne en dehors de toi. Tu ne fais que tourner en rond devant des milliers de miroirs. Sortir du rêve, c'est, avec l'esprit divin, qui est la prunelle de ton œil d'éveillé, voir toutes les fausses images du rêve s'envoler en fumée. Ta tâche à accomplir, c'est précisément de reconnaître qu'un rêve est aussi irréel que la séparation de la source. Que dans ton langage imaginaire, tu nommes cette source Dieu, intelligence universelle, Père, Yahvé, Jéhovah, Elohim, qu'importe, les mots ne sont que des symboles. Ils cherchent à formuler une réponse qui ne sera claire qu'en dehors du cauchemar chimérique de ton monde. »